Gazdo.
Moi, chez moi, je n'ai rien. Je n'ai pas un disque. Je n'ai pas un film. Je n'écoute jamais ce que j'ai fait. Je ne regarde aucune émission où j'ai participé. Pour deux raisons, je crois. La première raison, c'est que si jamais 20 ans ou 30 ans ou 40 ans plus tard, j'écoute quelque chose et je me dis « Oh, c'est pas possible que j'ai laissé passer ça. » La deuxième raison, c'est que si je me dis « Oh là là, c'est vachement bien ça. Oh, quelle bonne trouvaille. » Et je vais être tenté de m'en resservir et je ne veux pas. Or, c'est pour ça que j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Chez moi, je n'ai rien. Ce qui m'intéresse, c'est pas hier, c'est aujourd'hui et demain.
Bonjour Michel Legrand.
Bonjour.
Bonjour ma chère Myriam.
Bonjour.
Alors c'est moi qui tiens le micro, mais seulement ce soir.
La conversation.
Je me sens tellement bien dans ta vie.
Oh, quel compliment.
C'est-à-dire que, tu vois, il y a des choses que tu as préparées sans le savoir, comme le piano, comme les pianos, des choses comme ça. C'est très
important. Et pas que la conversation. Mais la seule chose, c'est que j'ai eu assez de sympathie pour vous pour organiser ce rendez-vous aujourd'hui.
Samedi dernier, le 26 janvier, à 2h45 du matin, dans la lueur de la nuit, Michel Legrand s'éteignait après plus de 80 années d'une vie consacrée à la musique. C'est au milieu des années 30 qu'il posa ses doigts d'enfant pour la première fois sur des touches noires et blanches du piano familial. Impossible de savoir depuis sur combien de claviers il plaqua de tout son corps des accords éprouvant ses improvisations. Écoutant juste son envie, il donna vie à des mélodies, les libérant ainsi de son esprit. Les inventant pour lui, pour les autres, pour des concerts, des disques et surtout pour le cinéma. Des musiques accompagnant, s'immisçant et magnifiant des mouvements de caméra, des paysages, des voix de comédiennes et de comédiens, ajoutant parfois une histoire à l'histoire. Il composa pour de multiples genres musicaux, semblant conserver perpétuellement sa curiosité et son enthousiasme d'enfant intact, toujours gourmand de création de nouveaux horizons musicaux. Ses partitions donnèrent naissance à des compositions classiques, pop et jazz. Il joua avec les plus grands, Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, Stan Getz, Ella Fitzgerald et tellement d'autres. Il apprit aussi à composer avec des commandes, parfois s'arrangea pour être arrangeur et donna de la voix en devenant chanteur. Il se plaça même un jour derrière la caméra, mettant en avant son histoire, scénarisant ainsi sa vie sur grand écran. Michel Legrand était un homme qui donnait envie de voir certains films les yeux fermés. Ce qui serait un tort, car les images qui accompagnent ses compositions furent signées par les plus talentueux des réalisateurs. Entre autres, Henri Verneuil, Jacques Demy, Marcel Carnet, Claude Lelouch, Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Yves Robert, Claude Autant-Lara, Sidney Pollack, Robert Altman, Clint Eastwood ou encore Orson Welles. La petite équipe de la conversation l'avait rencontré le 19 décembre 2014 grâce à la comédienne et écrivaine Macha Merrill qu'il venait de retrouver et avec qui il venait de se marier. C'est elle qui avait organisé cette rencontre en nous invitant dans son appartement du centre de Paris dans le quartier du Marais. Nous nous étions installés dans le salon à côté d'un vieux piano droit qui avait, comme elle nous l'avait alors confié, enfin trouvé sa raison d'être. Michel Legrand a rangé les partitions qu'il était en train d'écrire. Il nous a salués. L'émission pouvait commencer. Nous vous proposons cette semaine de revivre cet entretien exclusif qu'il nous avait accordé une heure durant, une conversation durant laquelle nous avions évoqué sa vie, ses rencontres, mais surtout sa passion infinie pour la musique.
Bonjour, c'est Michel Legrand.
Ah oui, mais c'est peut-être Michel Legrand. Mais c'est surtout Macha Merrill.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. One and Bido, Bido, Wando, nées sous le signe des Gémeaux.
Je propose qu'on débute l'émission par une balade sonore dans votre discographie où lorsque le quatrième art, la musique, rencontre le septième, celui du cinéma, pour n'en former plus qu'un.
Très bien.
Moteur.
Nous sommes des chevaliers sous le signe des Gémeaux.
C'est Lola.
Quelques-unes de vos musiques, nous venons d'entendre à l'instant.
Oui, oui.
Le
oui.
choix fut difficile, tellement le nombre est important.
Moi, je travaille beaucoup parce que ma passion, mes passions sont au pluriel. C'est-à-dire que, pour moi, j'aime la musique, et en aimant la musique, j'aime toutes les musiques. C'est-à-dire que une très belle chanson est beaucoup plus importante que beaucoup d'opéras italiens. Une petite mélodie peut vous dévaster d'émotion. Je trouve que qu'une symphonie doit être tellement bien écrite qu'il n'y ait pas de tâches dedans. C'est beau. J'aime le jazz à la folie, parce que le jazz, c'est l'immédiat, c'est l'improvisation. C'est formidable. J'arrive dans un pays, j'arrive dans un endroit, par exemple. Moi, j'aime tellement participer avec des musiciens de jazz. Par exemple, l'autre jour, il y a un peu de temps de ça, j'étais dans un théâtre où j'allais voir un orchestre qui était l'orchestre de Count Basie. Et je connais très bien Count Basie. J'ai écrit pour eux et tout ça. Je me mets exprès au premier rang dans l'espoir qu'ils me fassent signe de monter sur scène et de jouer avec eux. Vraiment. Alors moi, je parlais de ça, par exemple. Je racontais ça à c'est cet ami qui n'est plus, mais ce saxo-bariton américain.
Jerry Mulligan.
Oui, Jerry Mulligan. Je disais à Jerry, tu vois, moi, quand je vois des gens qui jouent, il me dit, écoute, tu veux pas savoir? Sa femme me dit, quand on est dans un restaurant et qu'il y a un pianiste, même médiocre, voire mauvais, qui joue, Jerry, il sort son saxo, il va jouer avec lui. Quand c'est dans une brasserie où il y a un orchestre de femmes qui jouent, je veux dire des valses viennoises, eh ben, il sort son saxo, il va jouer avec elle. Ça, c'est formidable. C'est là que voilà. Et ça, ça n'existe que dans le jazz. Et puis le jazz, c'est quand même comme une cérémonie vaudou. C'est-à-dire que le jazz, c'est exactement la même formidable impulsion qui vous oblige à devenir quelqu'un d'autre. Je m'explique. Quand l'orchestre swing vraiment, vous ne pouvez pas rester en place. On est comme possédé par des démons qui vous voient, et on commence à se lever, on commence à s'agiter, on commence à crier, on chante, on bouge. Je veux dire, exactement comme les cérémonies vaudou, moi où j'ai assisté, ou par exemple la samba brésilienne. Vous savez que les écoles de samba, c'est une centaine de musiciens. Il n'y a pas d'instruments, ce sont que les percussions. Mais les percussions, ça swing tellement que moi, je n'ai jamais dansé de ma vie, je ne sais pas danser. Puis je trouve ça ridicule. Bon, alors, j'étais à Rio, et le carnaval commence, et tout à coup, la première école de samba passe devant moi, on est là, et puis, tout à coup, j'entends de loin les percussions, et je commence à m'agiter sur mon siège, et plus ils s'approchent, plus je bouge, et quand ils sont devant moi, j'ai sauté le pas, je suis sorti dans la rue, et j'ai suivi l'école de samba toute la nuit, et je ne me possédais plus. Le jazz, c'est pareil. Quand ça swing vraiment, voilà, c'est ça le jazz.
Le cinéma, musique de Michel Legrand, version Thérèse Montcalm.
Sur l'écran noir de mai, nuit blanche. Moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Brando peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches. Je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches. Puis un travelling à panorama sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, tu t'avances vers moi. 1m80, où des biceps bleus les manches. Tu crèves l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Sur l'écran noir de mes nuits blanches. je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre. C'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches. Je te dis comment ça va, et je t'emmène au cinéma, et je t'emmène au cinéma, et je t'emmène. Je t'emmène au cinéma.
La conversation.
Dès l'âge de 4 ans, j'étais à mon piano chez moi. Et j'étais déjà, je commençais à tapoter. À jouer, j'écoutais la radio, j'essayais de retrouver les mélodies que j'avais entendues, les harmonies, tout ça. Et puis, j'étais intéressé non par le jazz, parce qu'à 4 ans, on ne sait pas ce que c'est, mais par les choses rythmiques.
Votre papa était chef d'orchestre, compositeur.
Oui, mais mon papa, il n'était pas chez moi.
Donc, il y a
Michel est un enfant abandonné de par son père.
Donc, ce n'est que génétique, alors, peut-être. Il faisait de musique de film, ce qui est quand même.
Il a quitté la maison quand j'avais 3 ans.
D'accord.
Et puis, j'ai fait sa connaissance plus tard. Quand j'avais 17 ans, il est venu me récupérer. Et puis, moi, j'étais étudiant au conservatoire. Il a dû entendre par le téléphone arabe qu'il y avait un Legrand qui s'agitait un peu au conservatoire et qui avait déjà des récompenses, des prix, machin. Alors, il est venu et on a fait connaissance de nouveau, là. Et c'était un homme... Bon, j'ai pas de rancune. Donc, je trouve que les gens font ce qu'ils ont envie de faire, même si c'est déplaisant. Alors, donc, mais... Et on est devenus d'abord des camarades, puis des amis. On était vraiment...
Vous faisiez de la musique avec lui?
Ah oui, drôlement, même, attendez, je l'ai vachement aidé. Quand il avait un travail qu'il n'arrivait pas à faire ou qu'il n'avait pas le temps de faire, pof, il me glissait et c'est moi qui me l'appuyais. Et ça, c'est normal, c'est bien, quoi. On est entre collaborateurs de la...
Mais on te posait la question du jazz. Comment c'est venu le jazz?
Merci, Macha.
Macha, tu sais, mon amour, le jazz, ça vient pas. Tu l'as ou tu l'as pas.
Ah, voilà. Il y a beaucoup de musiciens classiques qui sont incapables de jouer du jazz. Ouais. Et l'inverse, en revanche, c'est possible.
Beaucoup. Pas beaucoup.
Tous.
Il n'y en a pas un qui peut jouer du jazz. Pas un.
Mais certains jazzman se tentent
oui,
un peu. Oui,
je joue du classique. Bien sûr, moi, je joue du classique. Je fais des concerts classiques. Je peux, bien sûr.
Le swing ne s'invente pas. On l'a ou on l'a pas, c'est ça?
Voilà. On est né avec ou pas. C'est tout. Le jazz, ça balance naturellement. Ça swing très très bien.
Et en 1958, vous êtes à New York et là vous allez enregistrer Le Grand Jazz.
Oui.
Album incroyable où vous avez Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans.
Bah oui.
Bah oui. Tout simplement. Comment ça s'est passé? Surtout Miles Davis, apparemment à l'époque des fois il venait pas, il était pas sûr de jouer. Il n'y a pas eu un peu cette crainte?
Miles était un être... Un peu comme ça, un peu difficile à vivre. Quand on fait des choses, il faut prendre les meilleurs. Eh bien, les meilleurs, c'est eux. Et quel bonheur d'entendre ce type jouer. Moi, j'étais aux anges, j'étais assis dans le studio, j'ai laissé jouer comme ça. Et j'écoute, et c'était... Je ris, je pleure, c'est vraiment formidable.
Je vous propose qu'on écoute quelques jazzmen avec lesquels vous avez joué, Michel Legrand.
Il a fait les moulins lui aussi. On le reconnaît tout de suite.
Bah oui,
c'est quand même extraordinaire.
Une note,
il n'y a que lui. On reconnaît immédiatement.
Non, tous.
Ah non, mais lui.
Dizzy, pareil.
Ah oui, mais.
Dizzy et Tchernbecker.
Armstrong.
Oui,
c'est
vrai. Oui. Tchernbecker
aussi.
Valse,
d'accord.
On a écouté Bill Evans, Miles Davis, Jeremy Mulligan, Stan Getz. Que de beau monde.
Mais oui, mais FIFO. Vous savez, FIFO, je veux dire, quand vous êtes dans un restaurant, vous êtes dans le meilleur restaurant. Vous prenez les plus grands chefs. Ben oui, c'est pareil. Quand on enregistre, on prend les meilleurs musiciens.
Encore faut-il avoir les moyens artistiques, là, en l'occurrence.
Ben oui, mais vous savez, ça se travaille, ça. Je veux dire, la musique, c'est une langue qu'il faut apprendre. C'est une langue très difficile, très longue. Il faut 20 ans pour bien connaître son affaire. Quoi. C'est vraiment.
Mais il faut un petit plus. Je pense
quoi?
Que le travail ne suffit pas, sinon il y aurait beaucoup de monde.
Oui, bien
c'est
sûr.
C'est quoi ce plus? Vous l'avez quoi? Identifié aujourd'hui? C'est une facilité.
Je sais pas. On reçoit des dons bizarres. Quoi.
C'est un don.
Ah oui, c'est bizarre. Oui. On a les oreilles, on a un sens musical, on a. Les dons, c'est un truc très drôle. Les dons, je crois que c'est peut-être la seule preuve éventuelle de Dieu. Parce que c'est un fait vrai.
Et vous l'avez su tôt que vous aviez ce don ?
Oh, moi, très tôt, j'étais très doué. Je faisais en une heure ce que les autres faisaient en beaucoup de temps, quoi. Toujours, toute ma vie. Et étant étudiant aussi. Moi, je me rappelle que quand je suis rentré à la première classe de solfège à 9 ans au conservatoire, avec une licence spéciale, parce qu'à 9 ans, on n'a pas le droit d'entrer avant 13 ans, mais comme j'étais très en avance. Et alors, je savais pas que une dictée, c'était quelque chose qu'on jouait du début à la fin d'abord, et puis ensuite qu'on détaillait de mesure par deux mesures, pour que les élèves aient le temps d'écrire. Alors, au concours d'entrée, il y avait une centaine d'élèves qui étaient là à cette dictée. Et moi, la pianiste qui jouait, elle a joué toute la dictée d'un seul coup. Et je savais pas qu'elle en jouait après, alors je l'avais écrit d'un seul coup. Et dès que la dictée a défini, je me lève et je sors. Et je suis étonné parce que je suis le seul qui se lève et qui sort. Je dis, tiens, pourquoi les autres restent-ils ?
Vous êtes peut-être le seul Français à avoir des musiques qui sont devenues des standards du jazz.
Je sais pas, oui, bon, bah oui.
Ça vous fait quoi d'entendre tellement de versions?
Vous savez, français, c'est, je sais pas si je suis vraiment français, parce que moi j'ai été, mon adolescence, même étudiant au conservatoire, avec Nadia Boulanger dans les classes les plus sérieuses, les plus rigides, les plus comme ça.
Elle était dure, Nadia Boulanger?
Elle a tout fabriqué en moi, tout fait. Depuis tous les compositeurs, on travaille avec elle. Or, c'était le plus grand. C'est le plus grand maître de composition qui ait jamais existé. Et puis, elle détestait le jazz parce qu'elle trouvait que c'était trop restreint, trop petit, trop. Mais, en travaillant comme ça tout le temps, on finit par bien savoir ce dont on est capable. Mais on travaille comme des fous, quoi, parce que. C'est une langue très difficile, très très difficile, très longue.
Est-ce que les musiciens de jazz avec qui tu as travaillé lisaient tous la musique ?
Non, pas tous. Je me rappelle que quand j'étais très jeune, j'avais 20, 21 ans, Eddie Barclay m'avait demandé de faire un disque avec, d'orchestrer un disque pour Dizzy Gillespie, que j'avais entendu, moi, en disque, c'était un acrobate de génie, quoi. Et alors, j'avais écrit des choses, j'avais écrit pour lui, des partitions pour lui. Il arrive à la séance, il prend le pupitre où il y avait toutes ses partitions pour lui, il le met derrière lui, et il me dit, allez, vas-y, on joue. Il lit pas une note. Mais il n'a pas besoin.
Certains ne jouent que d'oreille.
Oui, mais il a une oreille de fou. Et d'ailleurs, dans ce disque, ce qui est formidable, c'est que, il jouait où il fallait jouer, et il jouait ce qu'il fallait jouer.
The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
when we finally kiss goodnight. I'll hate going out in the storm.
Michel Legrand, Jim Callum, Let It Snow.
Je vous propose qu'on écoute quelques versions d'un de vos morceaux et vous allez nous dire ce que vous en pensez, si vous reconnaissez les interprètes.
Ah, sûrement. Oui.
Un petit blind test, Michel Legrand.
The clock will tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return, I'll be here and run straight.
C'est Nana en anglais.
Accompagné par vous-même.
I will wait for you for a thousand summers. If it
Frankie.
C'est Macha qui a trouvé.
Frank Sinatra.
I will wait.
Lui aussi, hein. Une mesure et on sait qui c'est.
For a thousand summers.
Quel chanteur, hein.
Quelle beauté, hein.
C'est très différent de toutes les autres interprétations, c'est magnifique.
Back beside me till I'm
home. Il y en a qu'un qui joue comme ça.
On dirait James Bond, hein.
Unique au monde, hein, celui-là.
Mais tu l'as connu, alors?
Ouais, ouais.
Il est vieux, vieux, vieux quand tu l'as connu. C'est superbe, hein. Je ne connaissais pas cette
tendance.
Ça vous plaît, cette version, par Louis
Armstrong? Oui, formidable. Formidable, oui. Parce que c'est lui, c'est vraiment... Ce qu'il y a de formidable, quand c'est authentiquement les gens, il n'y a rien de plus beau.
Et en même temps, il respecte votre composition.
Oui, mais bien sûr.
Il s'approprie complètement de la musique. Oui, de Sinatra, il en a fait une chanson de Sinatra.
Un mariage, ouais. Si j'ose dire ça devant vous.
Mais surtout, il n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, ou de chanter comme les autres, ou de jouer comme les autres. C'est eux, quoi. C'est leur vraie personnalité. C'est l'authenticité.
On écoute par un autre interprète toujours cette même chanson. Elle a bien connu Stan Getz. Astrid Gilberto.
Astrid Gilberto. Astrid. C'est joli.
Astrid.
Ce que c'est joli.
Très, très mignon.
C'est formidable.
Et un dernier, une dernière version de votre morceau.
Je vais vous faire goûter moi une version.
Ah, alors là, Macha.
Qu'est-ce qu'elle est?
Ah, magnifique. Elle vient de prendre sur une étagère une boîte à musique qu'elle vient d'ouvrir.
Voilà, voilà.
Plus besoin de musicien. Il suffit
d'ouvrir
la boîte.
C'est une version aussi.
Thank you.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la partition blanche, ou en tout cas cette peur,
non,
comme les écrivains?
Jamais.
Jamais.
L'inspiration, elle est toujours là. Elle est toujours là quand on l'exige. Je veux dire, c'est marrant parce qu'on a des fois des grands drames dans sa vie et tout à coup, moi il m'est arrivé, c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que dans des moments des fois les plus tragiques de ma vie, j'ai écrit les choses les plus drôles et les plus marrantes. Et que tout à coup, longtemps après, j'ai à écrire une chose dramatique très profonde, très douloureuse. Eh bien, je me transporte à l'époque où j'étais douloureux. C'est-à-dire que l'inspiration, on la garde comme dans une banque, dans sa tête, et on le sert quand on en a besoin.
Je regarde Macha parce qu'un peu comme un comédien, j'imagine, on fait appel aux émotions que l'on a vécues, même si c'est très loin.
Absolument, vous savez, on fait un peu le même travail que vous. Oui. On stocke des informations, on observe, on regarde, on est tout le temps en éveil. Et tout ça, ça s'accumule quelque part. Évidemment, on ne sort pas de nulle part les choses que l'on exprime. Mais dans la musique, c'est en plus, il y a, comme dit Michel, ce langage extrêmement compliqué que n'est pas maîtrisé par tout le monde. Et qui fait que c'est un cercle extrêmement restreint de personnes qui ont accès à cet art qui est pour moi l'art le plus supérieur de tous. C'est le plus abstrait et en même temps le plus sensuel. C'est celui qui s'adresse directement à la chair, au corps.
Dans des moments des fois les plus tragiques de ma vie, j'ai écrit les choses les plus drôles et les plus marrantes.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Ba-ba-bili-ba-li-li, nées sous le signe des Gémeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Ba-ba-bili-da-li-ha-ba-ba-li-ha.
J'aime toutes les formes de la musique. Vers 65, par là, je veux chanter, je veux pas faire carrière de chanteur, mais je veux savoir ce que c'est que de chanter. Et j'ai écrit un grand nombre de chansons pour moi, et j'ai chanté avec beaucoup de plaisir. Il n'y a rien de plus joyeux, de plus amusant que d'être devant au milieu d'un grand orchestre et de chanter en solo.
La conversation.
Je vous propose qu'on écoute quelques souvenirs de Michel Legrand en chanteur.
On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie.
S'offre des musiques à plier boutique, des musiques à fermer les yeux. Les rues se changent en jardin, les marronniers en Paris vers l'aile aux sanglots longs. Paris ce soir se fait violon.
Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard avec ce qui se passe en Algérie en ce moment. Je ne reviendrai pas d'ici longtemps.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Et pour tous ceux qui aiment ça, et merci 100 000 fois, des millions de fois, et merci pour moi et pour tous ceux qui aiment ça.
Vous étiez très concentrés tous les deux, Macha et Michel, à écouter ces différentes chansons.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup Michel, le chanteur. C'est très raffiné ce qu'il fait. C'est très, très musical et très raffiné, très un peu difficile. Je comprends que ce ne soit pas très populaire, parce que c'est vraiment le, comment dire,
exigeant.
Le fait d'un vrai musicien. Et c'est ça qui fait que on est transporté. D'ailleurs, on comprend très bien comment il a pu écrire pour Nougaro et pour Nana et pour tous les gens avec qui tu as travaillé, parce que tu es la musique même, toi-même. Donc, c'était pas trop compliqué de chanter pour toi.
Oui, souvent les interprètes me disputent. Oui, c'est compliqué ce que tu écris, c'est trop difficile. Pourquoi t'écris pas plus simple? Mais je dis, Pierre, ils me disent tous. Même Barbara me dit, écoute, pourquoi t'écris hier? Ça monte tout là-haut, ça descend tout en bas. Je dis pourquoi? Mais je dis parce que moi j'ai cette étendue-là dans ma voix. Alors je m'en sers. Alors je dis écoute, si t'es pas capable de chanter ça, alors fais un autre métier. Alors de dire ça à Barbara Streisand, ça lui fait drôle, quoi, quand même, quoi.
Et quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait artistiquement?
Oh, je sais pas, moi, je suis pas très sensible aux compliments. Ça m'émeut pas beaucoup, c'est-à-dire que c'est gentil. J'aime bien qu'on m'aime et tout ça, mais en rentrant, je me dis pas « Oh, il m'a appelé génial, j'en ai rien à foutre de ça, quoi. »
La musique est en moi depuis toujours, et elle sera en moi jusqu'à la dernière minute, car tous les instruments, tous les sons, toutes les inventions, tout ce qui peut rentrer dans le monde de la musique, mais les bruits ne m'amusent pas.
Thank you.
Est-ce que vous pensez que la musique dit quelque chose des compositeurs, de leur personnalité?
Oh, bien sûr, évidemment.
Qu'est-ce que votre musique dit de vous?
Je ne sais pas. Moi, j'avais un grand-père arménien de ma mère, le père de ma mère. Et puis, vous savez, moi, je suis très influençable. J'ai une vraie éponge que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté, beaucoup. Et puis, c'est marrant parce que quand j'étais au conservatoire étudiant, je voulais savoir comment les gens faisaient, comment ils écrivaient. Alors, j'étais beaucoup à l'analyse des choses. Et j'analysais pourquoi il faisait comme si vous agiez, je lisais tous les livres des mélomanes qui disaient que ça, c'était le contrepoint renversé de ceci, cela. Et alors, j'étais vraiment à savoir comment les grands français, les grands russes écrivaient leurs partitions. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'être assis à côté d'Igor Stravinsky quand il était venu à Paris pour diriger ses œuvres. Aux Champs-Élysées, pendant une pause, il y en a des boulangers qui m'emmènent, j'étais là, moi, à écouter leur travail. On va dans un bistrot, et alors j'étais assis entre Nadia Boulanger et Igor Stravinsky. J'ai dit à Igor, qui parlait très bien le français, j'ai dit, maître, est-ce que je peux vous poser une question? Il me dit, bien sûr, mon petit, c'est quoi? Je dis, voilà, vous avez lu le livre de Boulez sur le sacre? Oh, il me dit, tu sais, je l'ai lu. Il me dit, c'est beaucoup dire, je l'ai pas lu, je l'ai parcouru, quoi. Il me dit, c'est tellement ennuyeux. Et puis il me dit, il a trouvé des raisons. Chaque note que j'ai écrite dans le sacre, ça vient de ceci, ça vient de cela, ça passe. Il me dit, j'ai jamais pensé à rien de tout ça, jamais. Il me dit, tu sais, puisque tu veux devenir compositeur, je vais te faire une confidence. Quand on a vraiment une grande technique et qu'on va exercer ce métier, eh bien, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. J'ai dit, maître, il me dit, oui, tu sais, on ne sait pas très bien ce qu'on fait quand on écrit. Le lendemain matin, j'ai supprimé toutes les dissections de la musique et tout. Et j'ai mis la raison. Et alors, ça a changé ma vie. Et tout à coup, alors après, j'écoutais plus rien, je cherchais en moi les choses. Et ça, c'est formidable.
La prochaine question, elle va être posée par un réalisateur qui a fait un film dans lequel on vous voit à la fin du film jouer du piano sur une plage. C'est Frédéric Becbédé qui a une question pour vous, Michel Legrand.
Ouais. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Je vous ai rencontré il y a quelques années. Je vous avais proposé de jouer votre propre rôle dans L'amour dure 3 ans, le film. Vous aviez dit oui tout de suite. Et à ma grande surprise, vous avez tenu votre promesse 7 ou 8 ans plus tard, et vous êtes venu jouer Les Moulins de mon cœur sur la plage de Guétari. Ma question est la suivante, pourquoi avoir tenu cette promesse? Est-ce que vous disiez « ça me fait plaisir d'aller jouer du piano sur une plage » ou bien vous pensez vraiment que l'amour dure 3 ans, vous qui venez de vous marier? Alors êtes-vous romantique, cynique? Ou ne sais pas.
J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous.
Quand je dis quelque chose, je tiens toujours ma parole. Alors, pour moi, je ne sais pas si ça va me plaire de jouer sur une plage. Ça m'étonnerait. Parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a du sable, parce que comment va sonner le piano dans le sable? Bon. Mais, quand on tourne un plan de film, c'est une aventure. Je dis, tiens, je vais voir comment il fait, qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est la curiosité qui m'emmène. D'abord, j'avais accepté, même 8 ans avant, peu importe. Quand je dis oui, je dis oui, mais quand je dis non, je dis non.
Michel Legrand, il y a 35 ans, vous aviez 47 ans, chez Jacques Chancel dans Radioscopie, j'aurais écouté l'émission pour préparer celle-ci, vous déclariez « On a souvent le sentiment de l'immortalité, ou on prépare sa mort le jour de sa naissance, ou on est éternel, et quand on est éternel, on a toujours le temps. Je me sens éveillé à tout, tout neuf, je n'ai encore rien fait. »
Oui, c'est vrai.
Aujourd'hui, est-ce que vous me diriez
moi,
la
c'est
même
pareil.
Chose?
Moi, chez moi, je n'ai rien, je n'ai pas un disque, je n'ai pas un film, je n'écoute jamais ce que j'ai fait. Je ne regarde aucune émission où j'ai participé. Pour 2 raisons, je crois. La première raison, c'est que si jamais 20 ans ou 30 ans ou 40 ans plus tard, j'écoute quelque chose et je me dis, Oh, c'est pas possible que j'ai laissé passer ça. La deuxième raison, c'est que si je me dis, oh là là, c'est vachement bien ça, oh, quelle bonne trouvaille, et je vais être tenté de m'en resservir, et je ne veux pas. Or, c'est pour ça que j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Chez moi, je n'ai rien. Ce qui m'intéresse, c'est pas hier, c'est aujourd'hui et demain.
Merci infiniment à vous deux, Macha Meryl, Michel Legrand.
Merci à vous. Tu vois, c'était pas si douloureux que ça, hein. Tu ouais, craignais.
Ouais. Ok, voilà.
Pour clore cette conversation, voici quelques notes du thème You Must Believe in Spring, une composition de Michel Legrand, ici interprétée par Bill Evans. Vous venez d'écouter La Conversation, aujourd'hui une émission spéciale qui rendait hommage à Michel Legrand. Merci à Alexandre Lemierre pour la réalisation. Si vous souhaitez réécouter ce programme, il vous suffit de vous rendre sur le www.rts.ch/laconversation. Bertrand Bichot au micro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour une conversation avec le philosophe et essayiste Michel Onfray.
Il est difficile de parler de George Sand sans évoquer Nohant, son oasis de création et de passion. Auteur de George Sand à Nohant, Michel Perrault ne conservait que peu d'estime pour cette féministe avant la lettre, jusqu'au jour où elle découvre la demeure de Nohant. Elle partage sa découverte avec nous dans Sous les pavés, samedi 2 février à 17h sur Espace 2.
Il est 13h, l'heure du...